Je vais tout de suite laisser la parole à Dany Trom, qui est chercheur au CNRS, qui est lié à cette institution, le HESS, par l'IR, et qui a beaucoup réfléchi sur les collectifs, sur la judaïté, sur la vulnérabilité invulnérable d'Israël, qui nous présente aujourd'hui une réflexion sur la religion comme fait politique, qui a été à peine évoquée, à peine écornée ce matin par les remarques de Julien Baroche. Dany Trom, je vous laisse la parole.
Merci. Alors, je me suis aperçu depuis le début du colloque, de nombreux exposés ont commencé par la phrase « Je n'ai aucun titre particulier à intervenir dans cette journée ». Et c'est exactement la phrase par laquelle je voulais commencer mon propre exposé. Donc apparemment, c'est une espèce de ritournelle, donc je vais devoir surenchérir. Quand Giulio m'a proposé de faire une intervention en ces journées, je lui ai dit que j'étais embêté parce qu'il m'arrive souvent de ne pas comprendre certains mots que Pierre Manant aime à manier. Ces mots, c'est spirituel, âme, disposition, dans ses déclinaisons, disposition de l'âme, mouvement de l'âme, il l'a répété ce matin, proposition d'humanité, domaine intérieur. Je sens bien que ce sont des mots importants, mais ils sont pour moi, je bute en quelque sorte sur leur sens, ils sont pour moi nimbés d'un halo de mystère. Leur sens demeure extérieur à mon expérience. Alors, c'est un handicap sérieux, et c'est pourquoi je n'exclus pas de n'avoir pas entièrement accès à la pensée de Pierre Manant. Mais Giulio a insisté, et donc je suis parmi vous. Je suis donc mal armé pour traiter le sujet particulier que Giulio m'a demandé de traiter, qui est celui de la religion. Et donc, je lui ai dit, voilà, l'intitulé pourrait être « La religion comme fait politique ». Et j'ai tout simplement ponctionné cette expression dans le troisième chapitre de « La raison des nations », parce qu'elle me paraît correspondre à quelque chose que je comprends et qui fait que la rencontre avec Pierre Manant peut se faire. En effet, j'ai rencontré l'œuvre de Pierre Manant par une porte dérobée lorsqu'est parue « La raison des nations », donc très tardivement. Je suis de surcroît sociologue de formation et l'argument antisociologique de la cité de l'homme que j'avais lu autrefois n'avait rien pour séduire le jeune sociologue que j'étais alors, puisqu'y acquiescer eût signifié scier la branche sur laquelle j'étais assis. La rencontre avec l'œuvre de Pierre Manant se fit sous le signe de la crise, lorsque vint le reflux de la vague anti-juive qui secoua la France au début des années 2000. Une vague de départ des juifs s'ensuivit, qui ne s'est peut-être pas encore tarie aujourd'hui. S'imposa donc, pour le sociologue, la nécessité de comprendre ce qui venait de se passer. La sociologie telle qu'elle a cours en France, ou telle qu'elle avait cours, ou telle qu'elle a d'ailleurs toujours cours en France, semblait inapte de se saisir de cet événement, incapable de décrire ce qui se passait, parce que terrifiée à l'idée de nommer les protagonistes qui étaient impliqués dans ces événements. Tout au plus, produisait-elle des excuses et recouvrait-elle l'expérience politique pourtant la plus commune et la plus immédiate, derrière un voile de bons sentiments. La raison des nations tranchait par la manière de dire les choses directement et clairement, sans circonvolution, sans fausse pudeur, sans scrupules mal placés. Et l'événement était soudain éclairé par un vaste projecteur sous lequel il prenait une ampleur inédite. Ce qui me frappa particulièrement dans La raison des nations fut cette affirmation. Mon exposé va tourner sur une seule affirmation, donc dans le troisième chapitre de La raison des nations. Je cite. Étant ainsi sorti d'Europe, le peuple juif invite l'Europe à dire son nom. Il lui demande son nom. Mon étonnement et mon trouble étaient multiples. D'abord, Pierre Manant parle des juifs en tant que peuple, avec toute la finesse et les nuances qui s'imposent, mais néanmoins fermement. Je compris plus tard, en lisant Pierre Manant plus amplement, qu'il fallait être à la fois républicain et chrétien pour en parler, et en parler avec autant de justesse. Ou peut-être fallait-il être républicain parce que chrétien. Deuxièmement, Pierre Manant soutient que ce peuple est sorti d'Europe. Affirmation dont je ne sais si elle est partiellement ou complètement vraie. Tout dépend probablement du plan sur lequel on situe cette sortie. Mais surtout, le point le plus frappant de cette affirmation est que les Juifs adressent une question à l'Europe. Car tout au long de la longue histoire des métamorphoses des formes politiques en Europe, pesait sur les Juifs la contrainte de dire qui ils sont, de dire leur nom, de le clarifier, de le modifier ou de le nier, selon les moments. Or voilà que Pierre Manant opère un surprenant renversement des pôles de l'interrogateur et du répondeur. Les Juifs demandent à l'Europe son nom, ou plutôt, l'Europe se demande qui elle est, quel est son nom, dès lors que les Juifs en sont sortis. Étant sortis d'Europe, ils s'adressent à elle de l'extérieur, et étant sortis d'Europe, l'Europe n'est pas identique à ce qu'elle fut avant cette sortie. Dit autrement, l'Europe demande aux Juifs quel est désormais son propre nom, comme si elle ne se reconnaissait plus. Mais pourquoi cette soustraction, pour peu qu'elle soit réelle, et pour peu qu'elle soit complète et définitive, est-elle si essentielle à l'Europe ? Une des réponses principales de Pierre Manant, si je l'ai bien compris, est que cette sortie est le symptôme par excellence du délitement de la forme nationale, du délitement de l'État-nation. Elle est donc le symptôme de la crise de la nation en Europe, et cette crise a précisément pour nom l'Europe, entendue comme processus d'anamorphose de la nation. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Juifs qui posent problème au corps national, mais leur départ qui, par effet de miroir, contraint ceux qui ont été quittés à l'introspection, à se poser la question existentielle de leur identité collective. Tout diagnostic a quelque chose de massif. Un diagnostic est toujours abrupt. Il s'impose dans les moments de crise. On y nomme les collectifs, on les conçoit comme des gros êtres pensants et agissant sur une scène. On détermine ce qui les motive essentiellement. On série et clarifie les compatibilités et les incompatibilités qui les relient et les séparent. Or, dit Pierre Manant, nous sommes devenus allergiques à la pensée massive. Nous ne voulons pas nommer les collectifs. Surtout, nous ne voulons pas nous nommer nous-mêmes et nous nous empêchons ainsi de mener l'enquête, de clarifier où nous en sommes et nous nous empêchons d'exister et d'agir. La sociologie, dans cette version immédiatement critique, devenue aujourd'hui une espèce de doxa qui imprègne toute l'atmosphère intellectuelle, en offrait une démonstration éclatante. Le regard politique de Pierre Manant, quant à lui, est un regard surplombant et pénétrant. Dans le livre d'entretien « Le regard politique », il s'en explique. « J'ai tendance à voir les choses en gros », donc je cite Pierre Manant. J'ai tendance à voir les choses en gros. Cela ne nuit d'ailleurs pas à la science, parce que les choses humaines arrivent aussi en gros. Nul besoin d'un microscope pour les saisir. Je ferme la parenthèse. Le regard porté par les sciences sociales est aujourd'hui certainement et malheureusement un des lieux du savoir où l'impossibilité de voir les choses en gros est travaillée, je dois bien l'avouer, avec un certain acharnement. Pour la sociologie, prévaut généralement la focale inverse à celle du regard politique de Pierre Manant. La plus grande généralité ne se dégage que par le cumul d'enquêtes particulières, détaillées, microscopiques. La synthèse y est toujours repoussée pour peu qu'elle ne soit pas simplement perdue de vue, fût-ce comme horizon. Et à la méfiance de la généralité s'y ajoute une défiance à l'égard de la philosophie qui manie un vocabulaire abstrait, détaché du plan de l'expérience ordinaire. Or, avec Pierre Manant, on voit certes arriver les choses en gros, et pourtant son entreprise philosophique est guidée par un souci d'appréhender les formes politiques comme des catégories de l'expérience politique et du champ d'action associé à ces expériences. Pierre Manant propose une histoire raisonnée des formes politiques qui est indissociablement une dynamique des idéalités et des modes de subjectivation. Or, il me semble que la sociologie, à condition du moins qu'elle soit consciente de sa propre teneur politique, ne vise aucunement l'empilement de savoir partiel et émietté du social, mais à radiographier ce qui anime politiquement la société. C'est pourquoi s'ouvre entre une sociologie intrinsèquement politique et une philosophie politique soucieuse de réalisme, donc intrinsèquement pratique, un vaste espace d'échange, voire même de recouvrement. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Les moments de crise sont peut-être ceux où cette convergence se révèle au grand jour. Demeure cependant une différence dans la manière d'envisager les choses. Le philosophe politique procède à un travail récapitulatif afin de se tenir sur la pointe du présent. Il restitue la logique qui gouverne la succession des formes politiques, formes dont nous héritons dans le présent de la crise, cela afin de sonder ce qui y est encore vivant, actuel, dans notre expérience. La philosophie politique est alors effectivement une science pratique. Quant à la sociologie, elle va directement vers l'expérience politique empirique afin de sonder ce qui est effectivement disponible comme appui dès lors qu'il convient d'agir. Ici, les formes politiques surgissent comme des appuis de l'action, impulsant des dynamiques imprévisibles qui rendent le sociologue effectivement méfiant à l'égard de la pensée massive. Dans la crise, les choses arrivent effectivement en gros. Ou plutôt, la crise est un moment de production de massivité, le moment des agrégations et des grossissements, des polarisations et des réifications. Ce n'est pas tant, dira le sociologue, que les choses arrivent généralement en gros, mais que dans la crise, l'action, pour s'orienter et se vectoriser, va se caler sur de grosses choses. C'est un fait sociologique. C'est un fait sociologique que le sociologue ne peut ni ne doit éluder. La sociologie devient alors aussi science politique, science de la politique. Les formes politiques ne sont pas seulement ce dont nous héritons sans nous en apercevoir, elles sont présentes et se donnent comme des leviers de l'action. Nous devons clarifier ces appuis, les trier, les hiérarchiser, les agencer, parce que nous devons agir. Les idéalités sont en quelque sorte autant d'appuis cumulés, juxtaposés, imbriqués, que la dynamique impulsée par la crise cherche à clarifier. La crise aiguë, la crise persistante, désigne l'impossibilité d'effectuer ce travail et la paralysie consécutive de l'action. La phénoménologie politique de Pierre Manant, j'utilise phénoménologie, comme on dit, phénoménologie de l'esprit, la phénoménologie politique de Pierre Manant a la crise pour arrière-plan. Elle est une pensée de la crise, une pensée de la crise actuelle qui doit déboucher sur un diagnostic lucide et des remèdes réalistes. Je serais bien en peine de restituer la dynamique telle que Pierre Manant l'expose dans les métamorphoses de la cité. Ce qui rend les métamorphoses de la cité particulièrement complexes, c'est qu'une forme est pour Manant toujours à la fois un mode d'assemblement selon un critère abstrait et un sujet collectif particulier qui l'instancie si parfaitement qu'il se confond avec lui. La cité est athénienne, l'Église est occidentale quoique catholique, l'Empire est romain, la nation civique accomplie est française, le vide est européen. Les transformations ne sont pas linéaires pour Pierre Manant. Elles sont faites de reprises, de réemplois, de ponctions, de péremptions et de rémanences. Néanmoins, une forme apparaît toujours comme une solution ingénieuse à l'impasse dans laquelle la forme à qui elle succède a abouti. Une crise recouvre souvent un moment de transition, de métamorphose. La chenille est immobilisée, se débat avec elle-même pour se dégager, tandis que le papillon a encore les ailes entravées et ne parvient pas encore à se libérer pour prendre son envol. C'est une version optimiste à laquelle Pierre Manant ne souscrit pas. Elle est probablement trop hegélienne. Une version dans laquelle quelque chose meurt pour immédiatement renaître sous la forme qu'elle contenait en elle, telle une promesse. Une crise aiguë advient à coup sûr lorsqu'une forme se délite et que rien ne semble se reformer qui puisse convenablement la remplacer. La crise que nous connaissons est anamorphose, sans métamorphose. L'Europe, dit Pierre Manant, c'est l'informe, l'informe comme condition d'existence, je n'ose même pas dire politique, comme condition d'existence non politique. Car ce qui est informe empêche l'action. Comment agir sans médiation aucune dès lors que nous quittons cette forme appelée nation, et qu'aucune autre forme ne pointe à l'horizon, que notre regard ne discerne que du semblable, qu'il ne parvient à opérer aucune distinction, ni à discerner aucune borne. Si l'homme est un animal politique, alors l'Europe, telle qu'elle s'esquisse, est invivable. J'espère ne pas caricaturer la pensée de Pierre Manant en disant que pour lui, il n'est d'autre chemin que le retour vers la forme nationale. La nation n'est pas encore complètement désactivée, il nous est encore possible de la retenir et de la revivifier. Alors, dans la crise, nous avons donc deux genres de manœuvres. La première, décrite par Pierre Manant, la sortie. Les Juifs sont sortis d'Europe, donc le pas dehors. Et puis, nous avons une autre manœuvre qui est le retour, le pas en arrière. Revenons à l'affirmation de Pierre Manant selon laquelle les Juifs sont sortis d'Europe. Il est remarquable que la raison des nations est construite en trois chapitres. Premièrement, la démocratie. Secondement, la nation. Troisièmement, la religion. Mais pourquoi la troisième partie, où Pierre Manant décrit la crise de la démocratie et de la nation, donc de la nation civique, pourquoi cette troisième partie porte-t-elle sur la religion ? Sur la religion comme phénomène politique, précise Manant. Il y a dans la crise ce que le sociologue appelle volontiers une régression vers les habitus. Pourquoi cette régression ? Parce que l'effondrement de la nation, comme pôle d'attraction politique par excellence, qui s'est constitué en secondarisant l'appartenance religieuse, la libère à présent. Mais en quoi la forme nation est-elle si précieuse ? La réponse de Pierre Manant est quelle est cette synthèse heureuse qui s'est dégagée historiquement des désordres anciens, de la grande crise précédente, tout en cumulant quelques-uns des acquis des formes précédentes. Le gouvernement de soi d'un collectif, mais davantage étendu, peut-être moins exigeant, mais certainement plus paisible que la cité antique très guerrière. La communion universelle de l'Église, qui se fait par adhésion, mais cette fois-ci particularisée sur la base d'une homogénéité préalablement réalisée. La possibilité de poursuivre la gloire terrestre, mais relativisée par la distribution égalitaire de cette possibilité aux autres collectifs de même sorte. Ce qui ressort particulièrement dans la raison des nations est que ce bien est précieux parce que la nation a su capter les intensités de la religion en les ramenant sur terre. Cette neutralisation des intensités a donné naissance à l'État laïque. L'État neutre ou laïque prend le relais de l'Église en secondarisant la religion. La nation se substitue à l'Église en politisant la communion sacrée tout en maintenant cette dernière dans un horizon non politique. L'Europe laïque est chrétienne en ce sens précis qu'elle est une manière très particulière de prendre le relais de l'Église, de mouler la communion sacrée impolitique dans une forme politique particularisante. État neutre ou laïque ne signifie donc pas du tout pour Pierre Manant état atone ou indifférent ou même tolérant, mais cela signifie d'abord captation du sacré. Ce qui est sacré est ce qui rend le sacrifice possible. Il y a ici une équation entre citoyenneté, civisme, communion dans la liberté qui donne à la position de Pierre Manant un tour très fichtéen. La crise de la nation est donc enrayement de la dynamique de l'Occident, comme si, ayant atteint son plus haut degré de perfection, sa forme la plus parfaite, elle y renonce et renonce dans un même mouvement à la politique en tant que telle. Pourquoi la sortie des Juifs d'Europe est-elle le symptôme par excellence de la crise de la forme nation ? Peut-être parce que cette forme était une solution qui, dès lors qu'elle valait aussi pour les Juifs, gagnait en généralité, donc en validité. Mais Église et synagogue, entre parenthèses, le terme synagogue avec majuscule comme Église, n'existe pas réellement, c'est une, disons, manière chrétienne de parler des Juifs, mais peu importe, on peut garder les termes. Mais Église et synagogue ne sont pas des assemblements de même nature, de sorte que la solution nationale républicaine ne les a pas affectés de la même manière. Certes, Pierre Manant note que l'émancipation des Juifs fut pour eux une acquisition, tandis que la séparation de l'Église et de l'État fut pour l'Église un amoindrissement. Mais il y a plus. L'émancipation des Juifs supposait leur dépolitisation, leur renonciation à demeurer une nation dans la nation, alors que l'Église continua d'être ce qu'elle fut par ailleurs, une communion universelle, invisible et non politique. L'émancipation des Juifs en France fut pour cela radicale, abrupte, complète, plus irréversible que partout ailleurs. D'une part, elle fut plus difficile parce qu'elle supposait un renoncement politique, mais d'autre part, elle fut plus facile puisqu'une fois le geste effectué, rien de l'ancien monde ne subsistait, aucun des nombreux attachements que la grande majorité de la population nourrissait et que la République ne put jamais complètement défaire, ne subsistait. Marc Bloch, que Pierre Manant cite, offre l'exemple de cette symbiose pour le contraster avec contraster cette figure avec la disposition actuelle des Juifs. Raymond Aron étant peut-être une figure déjà moins assurée, puisque l'ordre des appartenances y sont chez lui davantage questionnés. Mais toute sortie demeurait pour lui inenvisageable. Depuis les événements des années 2000, cette sortie s'effectue pourtant tel un mince flot continu, sans émouvoir grand monde. Si le peuple juif est sorti d'Europe, comme l'affirme Pierre Manant, il convient de souligner qu'il y a eu plusieurs sorties, tout dépend ce que l'on entend par sortie. Selon ce qui animait cette sortie, ou ces sorties, la question existentielle adressée à l'Europe varie aussi. La sortie sioniste esquissée à la toute fin du XIXe siècle, à laquelle Pierre Manant consacre quelques belles pages dans La raison des nations, est en réalité une sortie d'Europe qui emportait avec elle l'Europe. C'est un État pour le peuple juif, une nation juive, mais ailleurs, située hors d'Europe. Conçue ainsi, les Juifs sont peut-être sortis géographiquement d'Europe, mais ils sont restés spirituellement, j'ose le mot. Je dirais plutôt intellectuellement. Ce fut une forme purement réactive et une version strictement politique de la sortie, une séparation, mais dans un esprit similaire, une territorialisation et étatisation selon la voie statonationale européenne. Que cet État se colorie de particularités, d'une symbolique nationale ou du jour férié adapté à un calendrier particulier, n'y change pas grand-chose. Il ne s'agit pas d'un retour, mais d'une sortie géographique, d'une extraterritorialisation politique. Que cette sortie sioniste se fit finalement en direction de la Terre Sainte, atteste, dit Pierre Manant, qu'elle est teintée de retour, qu'elle relève du moins du domaine propre des Juifs. Ce n'est pas seulement la poussée vers la sortie qui ici explique la sortie, mais l'attraction positive vers la Terre Promise. La question de savoir s'il s'agit d'un affranchissement spirituel de l'Europe à la force de l'évidence pour soi, mais dès lors qu'il ne s'agissait jamais de reconstruire le royaume antique, de retrouver la forme politique antique, la théocratie, c'est bien toujours l'héritage européen qui continue d'irriguer cette entreprise politique. Ici aussi, il s'agit d'une sortie, peut-être justifiée et coloriée par la nécessité de se donner des mythes, mais non un affranchissement spirituel de l'Europe. Une sortie qui soit véritablement affranchie spirituellement de l'Europe fut effectivement recherchée. Elle ne pouvait être strictement politique, sinon elle continuerait de dépendre de l'Europe, ni être non politique, sinon elle n'aurait pas été une solution. La question était celle de savoir comment rejoindre une forme politique propre qui prenne appui sur la tradition, sans mimer un modèle statonational déjà discrédité par le choc de la Première Guerre mondiale, puis ruiné par le cataclysme de la seconde. Tel était le dilemme de Scholem, qu'il exprima oralement en réponse à des questions qui suivirent une conférence prononcée en 1946 à Jérusalem, question alors urgente, puisqu'on se situe en 1946, donc un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et un an avant le début de la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Je cite Scholem. Le sécularisme est valable aussi longtemps qu'il n'exige pas de sacrifice sur son autel. Il disparaît dès l'instant où l'on demande à des gens de mourir pour quelque chose. Un peu plus loin, il répond à la question posée, question qu'on devine mais qu'on ne connaît pas. Le concept d'humanisme est étroitement lié à celui de sécularisme. Nous nous sommes habitués à magnifier l'humanisme comme le contraire de la religion, comme un parfait substitut de la foi religieuse. Mais il n'est jamais arrivé dans l'histoire, pas plus qu'il arrive aujourd'hui que les gens se fassent tuer au nom du sécularisme. Les hommes ne sacrifient leur vie que pour une valeur qu'ils pensent absolue. Scholem pose le même problème que Pierre Manant, mais dans un sens inversé. Alors que l'Europe fait l'expérience de l'informe, les Juifs sont confrontés pour la première fois à l'expérience de la forme politique stato-nationale. Ici, le danger n'est pas l'informe. L'angoisse porte sur la forme, sur ce qui va faire tenir un assemblement, qui soit aussi un rassemblement, alors que la dispersion était en somme la forme habituelle, forme émiettée, archipel de petits corps politiques sans infrastructure. Comment trouver une forme qui ne soit pas sacralisée? Tel est le problème de Scholem. Ici aussi, il y a comme une nasse. Il n'y a pas de retour possible, dit Scholem. Et des modèles disponibles, il faut se défaire pour puiser dans la tradition qui ne propose pourtant aucune solution à portée de main. Que l'Europe de la pré-Seconde Guerre mondiale soit cette forme informe qui refuse toute clôture, Scholem, on le voit, le pressent dès 1946. Ce que voulait Scholem était parfois contradictoire, certainement trop complexe pour déboucher sur la pratique, parce que la pratique a toujours besoin de simplicité. Mais en réalité, toutes les voies de sortie que je viens de distinguer furent essentiellement suscitées par la crise de l'émancipation dans l'État-nation. Seul l'affranchissement spirituel de l'Europe se nourrissait du diagnostic de la crise de l'État-nation lui-même, crise fortement ressentie par les Juifs d'Allemagne dès la Première Guerre mondiale. D'où la question. La crise de l'émancipation, la constante reformulation du problème juif, est-elle une crise de la nation, de l'Europe des États-nations, ou une potentialité que le modèle stato-national contient en germe? Car il y eut surtout une autre sortie des Juifs d'Europe, celle qu'emprunta le plus grand nombre. Ce fut, si je puis dire, une sortie en masse par la cheminée des fours crématoires. Cette manière de dire les choses est de mauvais goût, j'en conviens, mais il est plus facile de dire brutalement des choses brutales. C'est ainsi que l'écrasante majorité des Juifs d'Europe sortirent d'Europe. On peut dire que cette sortie-là des Juifs d'Europe a produit un effet paradoxal. Ils sont sortis de l'Europe, mais l'Europe dépend désormais, peut-être pour la première fois, spirituellement du peuple juif. Cette dépendance négative est un aspect essentiel de la crise politique existentielle qui affecte la nation en Europe. C'est pourquoi les Juifs demandent à l'Europe son nom encore en ce sens. L'Europe se demande, à travers l'extermination des Juifs, qui elle est et répond qu'elle est criminelle. Soit les Juifs sont sortis par la cheminée des fours crématoires et alors l'Europe répond qu'elle est criminelle, soit ils sont sortis politiquement et menant désormais une politique particulière à laquelle l'Europe a renoncé, l'Europe est encore criminelle à travers son leg politique aux Juifs, à travers l'État d'Israël. Soit donc les Juifs figurent l'abandon de toute politique en Europe, soit ils figurent la survivance criminelle de cette politique abandonnée. Pierre Manant est certainement l'analyste le plus conscient de cet imbroglio. Dans cette impasse, comment se meut celui qui, tel Pierre Manant, veut la politique en Europe? Quelle marge de manœuvre reste-t-il? Si la nation est effectivement criminelle, alors il n'y a pas de voie politique de sortie à la crise. Mais si la nation est le rempart contre le crime, alors il doit y avoir retour à la nation. Ici, tout va donc dépendre de la manière dont on raconte le passé. C'est particulièrement patent dans les cours familiers de philosophie politique où Pierre Manant tend à disculper la nation, à l'absoudre de ce qui apparaît comme des perversions étrangères à sa nature profonde. Mais Pierre Manant confesse en même temps ne pouvoir pénétrer la part de mystère que recèle le nazisme et l'antijudaïsme permanent en Europe, porté à son acmé par les nazis. Or, cette part de mystère est probablement sur ce quoi butent tous les diagnostics, toutes les évaluations, et c'est probablement ce qui nimbe les diagnostics les plus sophistiqués d'incertitude. Dans la crise que nous vivons, je dirais, les Juifs ne sont pas complètement sortis d'Europe. Les Juifs émancipés se sont ménagés des voies de sortie parfois difficiles à emprunter, mais des voies praticables. Ils ont en quelque sorte élargi leurs possibilités. Alors que les chrétiens émancipés n'ont pour ressources politiques que la nation. Peut-être alors faut-il comprendre la phrase de Pierre Manant de la manière suivante. Peut-être, nous dit Pierre Manant, est-ce dans cette différence et par cette différence que l'Europe se demande quel est son nom et pourra répondre qu'elle est chrétienne, non pas du point de vue de la foi, non pas du point de vue d'un quelconque apparat, mais parce que seul le christianisme put accoucher de cette forme où une appartenance pourtant absolue transcende toutes les autres allégeances en conservant la liberté à chacun de cultiver des héritages plus anciens. Je vous remercie.
C'est difficile de ne pas réagir tout de suite à ce très bel exposé, mais je dois donner la parole à Robert Le Gros. Robert Le Gros, nous le connaissons ici depuis longtemps. Il est professeur émérite à l'Université de Bruxelles et je crois à Caen.
L'Université de Caen, oui.
Et nous le connaissons bien depuis l'idée de l'humanité, depuis ses travaux sur Tocqueville. Il est récemment l'auteur de L'humanité éprouvée et nous sommes vraiment heureux de lui donner la parole.
Je vous remercie. Alors, je commencerai par dire que je ne me sens aucun titre à parler de Pierre Manant, puisque je le lis depuis plus de 30 ans et qu'il a exercé sur ma propre pensée une très forte influence. Et je suis donc particulièrement heureux de lui rendre hommage. Et pour lui rendre hommage, j'ai bien entendu choisi un point très particulier, un point particulier de son œuvre. Je voudrais réfléchir simplement sur ce point précis, à savoir sur une divergence entre Pierre Manant et Tocqueville à propos de l'interprétation de la démocratie. Sur une divergence qui, du reste, n'est pas apparue d'emblée dans l'œuvre de Pierre Manant, une divergence sur laquelle Pierre Manant met l'accent plutôt dans ses grands ouvrages parus depuis l'an 2000, qui n'apparaissait pas, je pense, dans ses travaux antérieurs sur Tocqueville. Alors, comme Tocqueville, Pierre Manant estime que les démocraties sont fondées sur un principe d'autonomie, sur un principe d'égalité des conditions, et comme Tocqueville, il pense que ces principes peuvent avoir des conséquences qui peuvent être néfastes. Deux conséquences opposées, écrit Pierre Manant, mais également funestes, à savoir une passivité nouvelle et un activisme nouveau. Une passivité nouvelle, car la liberté nouvelle peut susciter une peur qui incite les individus à se donner un maître, et un activisme nouveau, car l'absence d'autorité naturelle et religieuse, peut donner aux hommes le sentiment que la volonté humaine, en tant que volonté du peuple, a le droit de tout vouloir. Pierre Manant écrit « Ces deux conséquences, contraires de la liberté nouvelle, fomentent ensemble et également un nouveau despotisme. » Et comme Tocqueville, Pierre Manant associe ce nouveau despotisme à un individualisme. Vous connaissez la célèbre phrase de Tocqueville, « La démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. » Et de la même manière, Pierre Manant écrit, « Les doctrines qui fondent notre régime politique posent que toute légitimité a sa source unique dans l'individu. » Donc, liaison chez Tocqueville comme chez Pierre Manant entre un nouveau despotisme qui se manifeste à travers l'individualisme. Cependant, il y a une divergence d'interprétation en ce sens que si nos démocraties ont en elles une tendance à, vers ce despotisme, vers l'individualisme, elles y résistent également. Et il y a une divergence sur l'interprétation de cette résistance, à savoir que, pour Permanent, en tout cas dans les grands écrits depuis une dizaine d'années, pour Permanent, la démocratie moderne peut résister à l'extension du despotisme démocratique grâce à des survivances en son sein du passé aristocratique. Survivance d'une église, survivance d'un passé préalable à toute autonomie, survivance de quelques hiérarchies. Autrement dit, nos sociétés sont certes emportées par le mouvement de la démocratisation, mais en même temps, elles résistent au mouvement de l'égalité triomphante. Je cite Permanent, elle ne cesse de se rapporter à une phase antérieure de leur histoire sociale et morale. D'une certaine façon, c'est bien ainsi que notre République l'a entendu, notre République a accompli là quelque chose comme un régime mixte. Donc, autrement dit, pour Permanent, on peut lire à différentes reprises qu'il met l'accent sur le fait que si nos démocraties ne cèdent pas complètement au despotisme démocratique, c'est parce qu'il y a dans nos régimes quelque chose comme un régime mixte, à savoir la survivance d'un passé aristocratique. Il ajoute, je cite, « Si l'on songe en effet à ce qu'a été l'éducation républicaine, c'est une éducation qui s'est efforcée très délibérément de mêler l'engagement républicain et démocratique, l'éducation à la démocratie d'un côté, et l'attachement à une certaine exigence aristocratique de l'autre. Donc, nos démocraties portent en elles, heureusement, d'après Permanent, un attachement à une certaine exigence aristocratique. En revanche, je pense que, d'après Tocqueville, c'est dans les principes mêmes de la démocratie que réside ce qui peut constituer un frein aux excès de la démocratisation. Et donc, c'est ce petit point de divergence que je voudrais interroger. Il est vrai que Tocqueville voyait dans les principes mêmes... Il est vrai que Tocqueville voyait dans la religion qui exerce un effet bénéfique dans nos démocraties une survivance de l'aristocratie. Mais il écrit en effet... Une religion quelconque qui a jeté de profondes racines au sein d'une démocratie doit être considérée comme le plus précieux héritage des siècles aristocratiques. Donc, il est vrai qu'il y a un héritage aristocratique dans nos démocraties, mais Tocqueville prend soin de préciser que la religion qui exerce cet effet bénéfique dans nos démocraties est une religion transformée par la démocratie. Donc, ce n'est pas à proprement parler un héritage de l'aristocratie, c'est bien le fruit de la démocratisation. La religion est transformée par la démocratie. Elle n'est plus vécue de la même manière, d'une part parce qu'elle devient une affaire privée, et d'autre part parce que, Tocqueville met l'accent sur ce point, elle devient effectivement monothéiste, en ce sens que les religions aristocratiques, même quand elles se proclamaient monothéistes, était de fait polythéiste, comme on le voit bien au Moyen-Âge, avec le culte des saints, qui correspond à une forme de polythéisme. Alors qu'avec la démocratisation, la religion apparaît comme religion à l'égard d'un Dieu qui est le Dieu unique de tous les hommes. Ce Dieu unique de tous les hommes devient, selon Tocqueville, profondément énigmatique. Il devient profondément énigmatique parce que il est à proprement parler omniscient et omnipotent, par opposition au dieu du polythéisme, et étant omniscient et omnipotent, il est tellement différent de nous que finalement on ne sait plus très bien ce que ce dieu exige et ce qu'il n'exige pas. D'où la fameuse formule de Gaucher qui, sur ce point, est inspirée par Tocqueville, « Plus les dieux sont puissants, plus l'homme est libre ». Ce sont donc, je le répète pour Tocqueville, ce sont bien les principes de la démocratie qui peuvent préparer le remède au despotisme démocratique. D'un côté, la démocratie peut engendrer, il est vrai, un nouveau passéisme, la soumission à l'État devenu tutélaire. Elle peut aussi poursuivre, mais cependant, elle peut aussi pousser vers l'indépendance politique et par conséquent contrecarrer ce passéisme. Il écrit en effet « Pour moi, loin de reprocher à l'égalité l'indocilité qu'elle inspire, c'est de cela principalement que je la loue. Je l'admire en voyant déposer au fond de l'esprit et du cœur de chaque homme cette notion obscure et ce penchant instinctif de l'indépendance politique, préparant ainsi le remède au mal qu'elle fait naître. C'est par ce côté que je m'attache à elle. » Et on peut déceler, à cet égard, deux interprétations de la loi de la majorité, l'interprétation de Permanente et l'interprétation de Tocqueville. Pour Permanente, je cite, « La démocratie moderne est fondée, ce thème est le fil conducteur de mon exposé, écrit-il, sur l'émancipation de la volonté. L'homme démocratique a spontanément le sentiment que la volonté humaine, en tant que volonté du peuple, a le droit de tout vouloir. » Et en revanche, je pense que Tocqueville reconnaît certes que la majorité peut conduire à ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, et cependant, il insiste sur le fait que le principe d'autonomie ne signifie pas que la démocratie donne tous les pouvoirs à la majorité. Il écrit « Il y a des gens qui n'ont pas craint de dire qu'un peuple, dans les objets qui n'intéressent que lui-même, ne pouvait sortir entièrement des limites de la justice et de la raison, et qu'ainsi on ne devait pas craindre de donner tout pouvoir à la majorité qui le représente. » Mais c'est là un langage d'esclave. Autrement dit, Tocqueville en vient certes à montrer que la loi de la majorité peut être une loi qui conduit à la tyrannie de la majorité, mais il insiste aussi sur le fait que la démocratie peut résister à la tyrannie de la majorité parce que la démocratie, bien comprise, ce n'est pas la loi de la majorité. La démocratie, bien comprise, dit-il, c'est la souveraineté non pas du peuple, mais la souveraineté, je cite, du genre humain. La démocratie peut conduire, certes, à la souveraineté du peuple, mais elle conduit fondamentalement à une souveraineté plus essentielle, qui correspond mieux au vrai visage de la démocratie, c'est-à-dire à la souveraineté du genre humain. Autrement dit, au-dessus de la majorité du peuple, il y a la majorité, je cite Tocqueville, la majorité de tous les hommes. Au-dessus de la souveraineté du peuple, il y a la souveraineté du genre humain. Je cite Tocqueville, il existe donc une loi générale qui a été faite, ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c'est la justice. La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple. Une nation est comme un jury chargé de représenter la société universelle et d'appliquer la justice par sa loi. Le jury qui représente la société doit-il avoir plus de puissance que la société elle-même dont il applique les lois? Quand donc je refuse d'obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander, j'en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. Alors, et il en est ainsi en démocratie. C'est seulement en démocratie qu'on peut en appeler de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain, parce que, alors là, c'est un point tout à fait capital chez Tocqueville, parce que la démocratie met pour la première fois au grand jour la figure du genre humain. elle met pour la première fois au grand jour, aux yeux des citoyens, la figure du genre humain. Alors, je sais bien qu'il y a la phrase, qu'il y a également la phrase de Tocqueville, il y a autant d'humanités distinctes, et ce sont des humanités incomparables. Et cependant, nous dit-il, il y a en démocratie une souveraineté du genre humain, c'est-à-dire une souveraineté qui est en accord avec l'humanité véritable. Et d'une certaine manière, l'humanité véritable ne peut être que l'humanité démocratique. Et pourquoi l'humanité véritable ne peut être que l'humanité démocratique ? Parce que c'est dans l'humanité démocratique qu'apparaît l'expérience du semblable. L'expérience de l'autre comme semblable en tant qu'homme, en tant qu'être autonome. Cette expérience qui apparaît avec la démocratie est une expérience qui, pour la première fois, met devant les yeux la figure du genre humain et autorise dès lors la démocratie à s'appuyer sur ce que Tocqueville appelle la loi du genre humain. Alors, ce genre humain, ici, pas du tout au sens de l'espèce humaine, car la loi du semblable pour Tocqueville n'est pas la loi de l'autre comme semblable en tant que membre de la même espèce que moi. Ce n'est pas une loi du semblable comme semblable empirique. Il en est manifestement ainsi pour Tocqueville, puisque l'expérience de l'autre comme semblable en tant que membre de la même espèce que moi est une expérience qui va de soi depuis des millénaires. Elle va par exemple de soi pour Aristote. Aristote l'exprime explicitement, le semblable engendre le semblable. Le poirier fait des poires, le pommier fait des pommes, aussi bien dans le monde végétal que dans le monde animal. Le chien engendre des chiots, le chat des chatons. Et l'homme, évidemment, des petits d'hommes. Ça, au niveau de l'espèce, nous sommes évidemment semblables au niveau pour Aristote. Le semblable engendre le semblable. C'est-à-dire, la forme spécifique se transmet par la génération. Donc, nous sommes tous semblables. Et cependant, Aristote n'hésite pas à dire que l'homme est un animal politique. Alors, évidemment, en disant l'homme est un animal politique, il va de soi pour lui qu'il ne parle pas de l'homme comme membre d'une espèce, puisqu'il n'y a que les citoyens grecs de la cité démocratique grecque qui se reconnaissent comme semblables en tant qu'hommes et qui se reconnaissent comme hommes politiques, donc qui sont citoyens, donc qui sont proprement humains. Donc, du point de vue d'Aristote, il va de soi que l'homme comme semblable en tant que membre de la même espèce, ça va de soi, les hommes sont semblables en tant que membre de la même espèce, mais en même temps, il va de soi également que l'homme véritablement humain, c'est le citoyen, puisque c'est un animal politique, et que c'est le citoyen au sens grec de la citoyenneté, et que par conséquent, quand il dit que l'homme est un animal politique, il veut dire c'est l'homme dans son sens véritable, dans son sens authentique. Par contre, avec la démocratie, apparaît une toute autre expérience du semblable qui apparaît également, comme Lévinas y insiste, avec le monothéisme. Là, avec le monothéisme, c'est l'autre comme semblable en tant que créature de Dieu, en tant qu'être à la ressemblance de Dieu. Tout être humain est à la ressemblance du Créateur. Comment comprendre que l'être humain puisse être à la ressemblance d'un être invisible ? Par la notion d'âme, sans doute. Mais enfin, il y a, pour la première fois, l'expérience du semblable comme expérience authentiquement humaine et qui recouvre tous les membres de l'espèce humaine, car tous les membres de l'espèce humaine, pour le judaïsme, pour le monothéisme naissant, sont à la ressemblance de Dieu. Et puis, nouvelle expérience du semblable avec la démocratie, expérience du semblable, non plus comme être à la ressemblance de Dieu, mais en tant qu'être autonome, en tant qu'homme. Alors, divergence donc avec Pierre Manant, car permanente estime que l'expérience du semblable n'a finalement pas de portée politique. Je lis ce passage de permanente. « À la différence de l'universel chrétien qui a contenu et forme, l'universel simplement humain est dépourvu de forme. Il ouvre l'espace vide d'une possibilité illimitée. Aujourd'hui, l'humanité est bien considérée par l'opinion commune européenne comme la seule ressource et référence disponible, mais cette humanité est dépourvue de portée politique. Elle ne constitue pas une ressource politique effective. Elle est tout au plus le cadre de référence d'un sentiment du semblable sur lequel il est impossible d'appuyer aucune construction politique. Il s'agit d'une humanité immédiate englobant indifféremment tous les hommes et tout homme qui n'offre aucune ressource. » Et donc, je voudrais donc m'interroger sur ce point, parce que pour Tocqueville, l'expérience du semblable, je voudrais préciser en quel sens, l'expérience démocratique du semblable a une ressource politique. Alors, bien entendu, l'expérience démocratique du semblable, l'expérience démocratique du semblable n'est pas universelle. Elle n'est pas universelle puisque, d'une part, il y a des humanités qui ignorent entièrement l'expérience de l'autre homme comme être humain, sur les sociétés archaïques, où il n'y a pas de concept d'homme, donc il n'y a pas d'expérience de l'autre comme être humain. Et d'autre part, il y a les différentes expériences du semblable, de l'autre comme semblable en tant qu'homme, comme je viens de le dire, il y a l'expérience monothéiste et l'expérience démocratique. Donc l'expérience démocratique comme telle n'est pas universelle. Cependant, la démocratie, par l'expérience du semblable, fait droit, d'après Tocqueville, fait droit à un élément qui est proprement humain, qui est universellement humain, proprement humain, à savoir ce que j'appellerais l'inconditionnement. Là où il y a être humain, il y a un être humain dans la mesure où c'est un être qui n'est pas conditionné, qui ne subit pas simplement un conditionnement. En quel sens ? Alors ici, je m'inspirais de la phénoménologie, mais on retrouve la même chose chez Tocqueville. Nous ne sommes pas conditionnés par l'empirique, car notre compréhension du monde transcende l'empirique. L'expérience démocratique du monde ou l'expérience aristocratique du monde transcende l'empirique, ne sont pas simplement fondées sur l'empirique. Si une expérience du monde était fondée sur l'empirique, elle s'imposerait finalement à l'ensemble de l'humanité, puisque nous avons les mêmes organes pour constater, pour observer. Si l'expérience démocratique du semblable était une expérience empirique, toute l'humanité s'accorderait d'emblée sur cette expérience démocratique du semblable. De la même manière, pour l'expérience aristocratique du semblable, elle n'est pas l'expérience aristocratique du semblable selon laquelle le semblable est, c'est l'autre en tant que membre de ma caste ou le membre de ma classe. Cette expérience aristocratique du semblable n'est évidemment pas une expérience empirique. Donc nous ne sommes pas conditionnés par l'empirique parce que nous sommes dans une expérience du monde qui transcende l'empirique. Et en même temps, nous ne sommes pas conditionnés par notre compréhension du monde car il y a, pour tout être humain, certaines expériences universelles. Certaines expériences qui sont universelles dans la mesure où ce sont des expériences sans concept. Par exemple, pour Husserl, l'expérience d'autrui comme être animé, comme subjectivité incarnée et animée. Je vois qu'autrui ressent comme moi, c'est là une expérience pour Husserl qui est universelle. C'est vrai pour l'homme de la société archaïque, pour l'homme de la société démocratique grecque, pour le romain, pour l'homme médiéval, pour l'homme démocratique. L'autre est animé comme moi par une subjectivité. Donc nous ne sommes pas conditionnés simplement par notre compréhension du monde, parce que nous avons aussi une expérience universelle. Nous avons aussi des expériences universelles que nous pourrions appeler des expériences phénoménologiques. C'est du reste parce que nous ne sommes pas conditionnés que en toute humanité, il peut y avoir ce que Castoriadis appelle la brisure du cercle de l'intelligibilité quotidienne. Dans l'intelligibilité quotidienne, notre expérience du monde tend à paraître simplement empirique. Par exemple, en aristocratie, les hiérarchies semblent simplement empiriques, à la fois naturelles et surnaturelles. Et en démocratie, la similitude du semblable semble également empirique, peut sembler empirique, mais elle n'est pas empirique. Elle peut sembler empirique au point, dit Tocqueville, que les individus en deviennent conditionnés parce qu'ils sont poussés à se copier. Ils veulent se ressembler pour en quelque sorte confirmer leur expérience de semblable, confirmer la validité de l'expérience de semblable. Et donc, constate Tocqueville, en effet, dans nos démocraties, il y a là une sorte de conditionnement. On agit comme on agit, c'est le « on », pour parler comme Heidegger. Ce que Tocqueville voit, c'est que le « on », il est dominant en démocratie. En aristocratie, c'est autre chose. En aristocratie, on n'agit pas comme on agit, mais on agit comme le supérieur agit, comme l'autorité agit. On agit selon des modèles. C'est évidemment tout un conditionnement tout aussi fort, mais ce n'est pas du même ordre. Avec la démocratie, en effet, c'est le « on » anonyme. Mais, en même temps, on peut sortir du « on » du point de vue de Tocqueville. C'est ce que Castoriadis appelle la rupture de l'intelligibilité quotidienne. Et c'est ce que Husserl appelle le recul suspensif. Si nous pouvons suspendre notre jugement, si l'être humain fondamentalement est quelqu'un qui peut suspendre son jugement, c'est bien parce que ne s'impose pas à lui ce qu'il constate simplement comme empirique. Il peut suspendre parce qu'il peut prendre une distance. L'être humain, du point de vue de la phénoménologie, on peut le dire en général, l'être humain est quelqu'un qui se caractérise par cette capacité de suspendre son jugement. Je peux suspendre mon jugement, quel qu'il soit. Je peux le suspendre précisément parce qu'il y a dans mon expérience des choses qui ne coulent pas de source. Il y a inadéquation entre l'empirique et ma compréhension du monde, et entre ma compréhension particulière du monde et l'expérience universelle. Eh bien, par conséquent, il y a dans l'expérience du semblable quelque chose qui peut préserver la mise en distance du monde, la mise à distance du monde, donc qui peut préserver ce que j'appelle l'inconditionnement, le fait que nous ne sommes pas conditionnés parce que l'expérience du semblable peut apparaître en démocratie par opposition à l'aristocratie, peut apparaître comme non empirique, ce qui n'est pas le cas de la hiérarchie. Pour que la hiérarchie s'impose, il faut qu'elle paraisse empirique. Le supérieur s'impose en aristocratie comme hiérarchiquement supérieur, hiérarchiquement au sens aristocratique, dans la mesure où il va de soi qu'il est naturellement supérieur. Il ne l'est pas parce que nous aurions décidé par convention qu'il est supérieur. Il l'est par nature. Alors qu'en démocratie, le principe d'autonomie est profondément énigmatique, de même que le principe d'égalité des conditions, parce que se pose toujours la question, en tant que quoi sommes-nous semblables ? Nous ne le sommes pas en tant qu'espèce, nous ne le sommes pas pour une raison religieuse, et ce n'est pas non plus la similitude phénoménologique ou universelle, puisque l'expérience du semblable est autre que l'expérience phénoménologique. Donc, il y a une énigme de la similitude qui pousse les gens qui sont en autonomie démocratique à mettre en question tout ce qui pourrait contredire l'autonomie, c'est-à-dire tout ce qui pourrait favoriser le conditionnement. Alors, ce que je viens de dire en cherchant quelques appuis philosophiques, je constate que Robert Badinter l'avait exprimé simplement d'un point de vue juridique à l'époque où le Front National était arrivé au second tour. Imaginant une arrivée de démocratie, une arrivée démocratique, entre guillemets démocratique, de Le Pen au pouvoir, c'est-à-dire par le biais des élections, Robert Badinter faisait remarquer ceci. Et c'est là que je veux montrer que le principe démocratique met en question, le principe démocratique nous pousse à maintenir pas l'autonomie, c'est-à-dire à maintenir le non-conditionnement de l'être humain. Donc Badinter écrivait ceci. En France, comme dans les autres grandes démocraties, il existe un état de droit. Une majorité parlementaire d'extrême droite ne pourrait voter des lois qui attenteraient aux libertés et droits fondamentaux des citoyens et des étrangers sans que ces dispositions soient censurées par le Conseil constitutionnel. Et le gouvernement de Le Pen ne pourrait prendre aucun acte réglementaire ni décision administrative qui méconnaîtrait les principes fondamentaux de la République sans encourir l'annulation par les juridictions administratives sous le contrôle du Conseil d'État. De même, les justiciables seraient fondés à invoquer devant toutes les juridictions les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre des textes qui violeraient les droits et les libertés des citoyens et des étrangers. La Cour européenne des droits de l'homme ne manquerait pas de condamner la France pour les atteintes portées par son gouvernement et sa majorité parlementaire aux principes inscrits dans la véritable charte des libertés de l'Europe. Donc je veux dire par là, parce que à mon avis ici Badinter touchait un point très juste, c'est que aussi longtemps que nos institutions restent démocratiques, on peut être assuré que en raison de la démocratie elle-même, les citoyens, même à la majorité, ne pourront pas prendre une loi qui irait à l'encontre de l'autonomie humaine. C'est-à-dire, même si Le Pen disait « à la majorité, nous estimons que si nos institutions restent démocratiques, la loi ne passe pas, n'est pas appliquée par les tribunaux. Elle ne pourra pas être appliquée par les tribunaux. » Et donc, je pense que c'est sur ce point que on peut rejoindre Tocqueville, à savoir que la loi de la majorité n'est pas la loi ultime de la démocratie, parce qu'il y a des principes que la démocratie entend préserver pour que l'autonomie soit préservée. Alors, qu'est-ce que c'est cette autonomie? C'est un point d'interrogation. Mais il y a en tout cas une lutte suscitée par la démocratie pour maintenir l'inconditionnement de l'être humain. Je vous remercie.
Merci. À Robert, notre ancienne amitié m'autorise à objecter à ta caractérisation de ce que j'ai dit, même si, après tout, je n'ai aucune autorité particulière ici pour en décider. Parce que tu as dit que, à la différence de Tocqueville, qui voyait au mot de la démocratie des remèdes démocratiques, je recourais à, je te cite, la survivance d'un passé aristocratique.
Oui, la survivance, c'est moi qui te citais là.
Non.
Survivance d'un passé aristocratique, c'est une expression qui vient de toi.
Bon. Les choses deviennent de plus en plus inquiétantes. Parce que tu as cité ensuite ce que je disais, et en quel sens, enfin, admettons que j'ai dit cela. Bon, je parlais de l'éducation de la Troisième République. Alors, comme survivance d'un passé aristocratique, c'est pas vraiment typique. Pourquoi ? Je disais simplement que ce qui me frappe, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, c'est peut-être chez moi je suis trop impressionné par cet aspect des choses, mais ce qui me frappe, c'est que la Troisième République, encore une fois passablement agressive contre l'Église et naturellement peu amie de la monarchie, a placé au centre du cursus éducatif la littérature du siècle monarchique et catholique. Et ce que tu appelles, que j'ai, selon toi, les survivances d'un passé aristocratique, c'est le fait que les enfants de France apprenaient là, les fables de La Fontaine, le Cid et Phèdre, les pensées de Pascal. Ce qui est donc resitue la question de l'aristocratie dans l'orbite de l'éducation. Et l'éducation comme exigence, difficulté, et en ce sens, si l'on veut, l'éducation a par elle-même une composante aristocratique. Alors, si l'éducation a par elle-même une composante aristocratique, j'admets que il faut que la démocratie conserve une certaine exigence aristocratique, et qu'en ce sens, tout régime est un régime mixte et comporte une part aristocratique. Mais cela, c'est parce que c'est inscrit dans la nature de l'être humain et pas parce que on souhaiterait préserver des survivances aristocratiques, d'ailleurs. Survivances, héritage, racines, ce ne sont pas des termes qui me paraissent en général éclairants pour orienter notre action politique. Et ce qui me fait répondre brièvement à mon seul point de divergence, enfin de divergence avec Danny Trom, lorsque il dit que, selon moi, au fond, il n'y avait d'issue que dans le retour à la nation. Si j'ose dire, je ne peux pas vous dire ni penser cela parce que c'est contraire absolument à tout ce que j'essaie de, avec l'aide du vieil Aristote, de restituer de l'homme agissant. Et que l'homme agissant est nécessairement tourné vers l'avenir, orienté par des biens naturels, mais nécessairement tourné vers l'avenir. Que c'est en somme, pour une part, le fléau paralysant de la pensée moderne de nous proposer une règle inscrite dans l'histoire, que cette règle soit la règle du progrès ou la règle au contraire de la réaction, et que donc le propos est de libérer l'action et non pas de la ramener, libérer les possibilités de l'action et non pas de la ramener à une condition passée. Et tout ce que vous avez dit et que je partage, tout ce que nous, en tout cas, nous partageons dans le diagnostic de la situation, rend absolument impossible le retour à la nation de Daron ou à la nation, son nom m'échappe à l'instant, de l'historien
de
Marc Bloch. Bon. Donc, pourquoi ? Parce que, alors, les Juifs sont sortis d'Europe. Et l'Église est sortie de France, en un certain sens. C'est pas... Bon. Donc, ces grandes références spirituelles, enfin, la synthèse nationale qui embrassait ces puissances spirituelles, ces défaites ont été très affaiblies. Donc, je n'imagine pas une seconde que nous ayons le loisir ou les moyens de revenir dans cette condition de la nation synthétique. La seule chose que je conteste, c'est que, à notre problème, l'Europe que nous avons caractérisée comme nous l'avons caractérisée soit le moins du monde la solution. Voilà. Mais qu'une solution nouvelle soit à trouver, certainement, elle ne peut pas être dans un simple retour à la vieille nation.
Deux choses très triviales. D'abord, la représentation politique est considérée par certains comme aristocratique. Et c'est évident que les gens qui votaient pour Clémenceau, pour Jaurès, avaient l'impression de voter pour quelque chose qui était au-dessus d'eux, qui était grand. Bon, alors là, pourquoi la représentation politique s'est-elle affaissée ? Parce que c'était un élément aristocratique vivant dans notre démocratie. Pour certains, seul le tirage au sort est réellement démocratique, enfin, vous le savez. Alors, ça pose un problème interne et très institutionnel. Et en ce qui concerne le judaïsme, ici, en France, il y a eu effectivement une vague post-Dreyfusarde, si vous voulez, d'adhésion du judaïsme à la nation française, enfin, de Brunswick, tel que Lévinas a rapporté ses propos, et a été le témoin, et il y a eu un messianisme français alimenté par les Juifs de France. Évidemment, ça s'est cassé complètement la figure, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution que le sionisme, qui, comme l'a dit Yannick Rigel, par exemple, les Juifs français sont sionistes parce qu'ils sont politiques. Donc il y a une transition, pour eux plus facile que pour d'autres, vers l'État d'Israël. Mais de l'autre côté, on pourrait dire pourquoi le judaïsme en France ne s'est-il pas confessionnalisé? Est-ce que la confessionnalisation du judaïsme aux États-Unis et en France n'est pas d'un certain côté peut-être une réalité? Et c'est une possibilité sur laquelle j'aimerais que...
Oui, sur la représentation démocratique qui peut apparaître comme aristocratique, je voudrais préciser que effectivement, en démocratie, il peut y avoir le sentiment d'une hiérarchie, mais ce n'est plus une hiérarchie au sens aristocratique du terme. Dans le sens aristocratique du terme, la hiérarchie est une différence de nature. Or, s'il y a différence de nature, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de vote. Une élection en aristocratie n'a pas de sens, parce qu'un inférieur n'a pas à contrôler un supérieur puisqu'il est inférieur. Donc il n'y a pas de vote en aristocratie. Donc l'exemple que vous preniez, on peut s'imaginer que c'est un reste d'aristocratie, mais dès qu'il y a élection, on n'est plus en aristocratie. Il peut y avoir... On n'est plus en aristocratie au sens profond que...
Simplement, dans le fonctionnement même de la démocratie, il y a un élément d'aristocratie qui subsiste et qui fonctionne à certains moments. Le sentiment qu'il y a des gens qui sont plus grands.
Ah oui, mais ils sont plus grands. On a ce sentiment, mais ils ne sont pas plus grands au sens aristocratique. C'est simplement ça. Oui, mais je le prends au sens de Tocqueville. C'est un être qui, justement... Notre discussion montre bien à quel point c'est différent ce qui se passe en aristocratie qu'en démocratie. C'est que nous avons de la peine à comprendre ce que ça signifie en aristocratie. Qu'est-ce que ça signifie qu'un supérieur est supérieur hiérarchiquement en aristocratie? Nous ne pouvons le comprendre, à mon avis, que par une expérience où il y a encore une supériorité, c'est le petit enfant et les parents. Là, effectivement, on comprend que l'enfant doit obéir à ses parents parce qu'il est inférieur. Là, ça a du sens. Encore que... Encore qu'il faut ajouter le petit enfant, parce que...
Oui, juste, si je peux, Pierre, un mot sur votre objection. Alors, deux points. Retourner, c'est agir. Aussi. Donc... c'est une modalité de l'action, il n'y a pas de raison de l'exclure. Donc du point de vue de, disons, c'est une manœuvre possible, c'est ça que je veux dire, et elle n'a rien de déshonorante en soi. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que je pense qu'il y a cette tentation qu'on est tenté d'en conclure que c'est une possibilité que vous envisagez, c'est tout simplement que vous décrivez une nasse, c'est-à-dire que on voit bien que il n'y a pas, pour de très bonnes raisons, de possibilité de faire un pas en avant. C'est-à-dire, ne se répliquera pas une nation en grand. Et dès lors, l'Europe ne sera pas non plus, comme vous l'avez expliqué, un empire. Donc, quelles sont les possibilités d'action? Les possibilités d'action, la nation n'est pas encore complètement moribonde. Donc on peut imaginer que agir, c'est la retenir, la revivifier. Il me semble que votre entreprise cherche un moyen de le faire. Ça ne veut pas dire revenir, ça veut pas dire revenir au passé. Ça veut dire réactualiser une forme dans son contexte nouveau.
Alors, nous nous rapprochons de l'accord. Je crois qu'il faut, chose très importante, et c'est au fond la raison d'être du livre dont vous avez parlé, c'est de retrouver nos raisons d'amitié pour la nation, nos raisons d'amitié pour la vieille nation, retrouver l'amitié de notre vieille nation qui est entièrement perdue par, en tout cas, la classe dirigeante. Ça, on peut parler de la classe dirigeante parce que ce qu'il a défini, c'est qu'elle s'est séparée de la nation. C'est très clair, depuis longtemps. Bon. Donc, retrouver l'amitié de la nation, effectivement, c'est notre seul cadre d'action, c'est notre seul cadre de délibération effective, mais c'est un corps politique qui, s'il veut agir, doit agir dans la connaissance de ces nouvelles circonstances, qui sont cet affaiblissement et le fait que les questions enfouies ne sont plus enfouies. Et les questions enfouies, c'est la question du rapport à Israël et à l'Église, au judaïsme et au christianisme. C'est une nation qui croyait avoir résolu cette question par la neutralité de l'État laïque et bientôt de la société laïque, et qui voit la question, qu'on peut dire superficiellement, la question religieuse, enfin, la question des communautés religieuses, lui revenir de l'extérieur, et elle doit négocier cette situation complètement inédite.
Oui, sur la question de la confessionnalisation, ben je dirais que confessionnalisation, ça veut dire christianisation en réalité. Ça veut dire christianisation. Ça veut dire christianisation. Ben, je pense que Pierre serait d'accord avec moi.
Oui, une question pour Dany. Dans le changement de celui qui formule la question du non, hein, et celui qui répond, donc l'Europe et les Juifs, hein, le moment où l'Europe se met à devenir elle-même questionneuse en fait de son propre non. Hein, est-ce que tu peux revenir sur le moment du basculement, hein, le moment où, selon toi, ça s'est renversé, où donc les Juifs sont devenus pour l'Europe le lieu d'une réponse, en fait. Attends. Deuxième question, Dan, et en fait c'est une question sur ta propre position de parole dans cet exposé, c'est-à-dire à partir du moment où donc on prend acte de cette crise qui est récente, et effectivement moi aussi, quand au début des années 2000 je voyais la situation, le livre de Pierre a été un choc, enfin positif, là, enfin, une parole vient qui parvient à désigner quelque chose de réel dans le débat. Bon, à partir de cette crise, donc tu as envisagé la configuration de ceux qui sortent et des Européens qui les voient sortir. Est-ce que quelque chose a changé dans le rapport à l'Europe pour ceux qui décident de rester ?
Non, tes questions sont difficiles, surtout la seconde. La seconde, je ne peux pas y répondre comme ça, à brûle pour point. Quant à la première, je pense que c'est quelque chose que Pierre Manant a très bien saisi, et qui est en réalité une composante importante de la nasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé de manière un peu brutale la sortie par la cheminée. C'est-à-dire que dès lors que l'Europe s'est construite sur deux choses essentiellement, aux sorties de la guerre, ce matin on a parlé des 15 années d'illusions qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'illusion qui mettait la France dans le camp des vainqueurs alors qu'elle était dans le camp des vaincus. C'est quand même un des grands problèmes de la France, c'est qu'elle s'est pensée vainqueur, parce qu'on lui a fait croire qu'elle était vainqueur après-guerre, alors qu'en réalité, elle était dans le camp des vaincus. Elle a été premièrement vaincue et deuxièmement fasciste pendant 5 ans. Donc elle était manifestement dans le camp des perdants. Et c'est De Gaulle qui sauve la mise, d'une certaine manière, mais ça fait illusion qu'à un moment. Et voilà, le problème de l'Europe est le suivant, c'est que, et vous avez raison, c'est pas seulement que l'Europe ne peut pas être un empire, parce qu'elle n'a pas d'empereur. Et c'est qu'elle ne peut pas être un empire parce qu'on ne peut pas construire un empire avec une coalition de pays défaits. C'est ça le problème, c'est que se sont unis des États qui étaient d'une part tous vaincus. C'est pour ça que la Grande-Bretagne ne s'est jamais sentie européenne, parce qu'elle est la seule à être victorieuse en réalité dans la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une coalition de vaincus, et c'est, on pourrait dire aussi, et ça c'est parti de l'Allemagne, on l'a dit ce matin aussi, d'une certaine manière une coalition de criminels, c'est-à-dire que le crime est parti de l'Allemagne avec la complicité des autres. Et comment vous allez construire une entité politique? Comment est-ce que vous allez renoncer à ce que vous décrivez si brillamment, qui était cette synthèse de la nation? Comment est-ce que vous allez reconstruire quelque chose sur Mais en fait, c'est deux affects en fait qui sont dominants à la sortie et de là vient aussi l'impossibilité à la fois de retour en arrière, effectivement. C'est pour ça que le retour est probablement impossible, même s'il peut être souhaité, ou que c'est à partir de là que quelque chose de nouveau peut être tenté. Et en même temps, il est impossible de faire un pas en avant, que vous décrivez parfaitement, parce qu'il ne peut pas y avoir de clôture, parce qu'il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de définition de qui on est, parce que toute clôture est une exclusion, toute exclusion équivaut à un crime, et que tout crime nous ramène à l'événement qui a fait de l'Europe une entité criminelle. Donc ça, c'est ça qui définit en réalité l'équation sans issue dans laquelle l'Europe se trouve. Mais bien entendu, la réponse de Bruno, c'est qu'il y a... La question s'est inversée quand, précisément, sous la forme du crime contre l'humanité, l'Europe est devenue dépendante des Juifs, on pourrait dire.
Nous n'avons pas le temps pour reprendre cette question. Comment dire ? Même le plus pénitent ne peut pas cumuler des crimes incompatibles. Et vous ne pouvez pas dire à la fois que la France fut vaincue et fasciste. Parce que ce que vous appelez le fascisme n'est que le résultat de la défaite. Alors, choisissez l'inculpation, mais pas les deux.
Elle n'était pas la seule à être dans cette situation. Personne n'a été complètement fasciste, ni beaucoup ont été complètement vaincus, mais...
Des accusations si graves ne peuvent pas être distribuées au jet d'eau. Non, c'est trop. Plus l'accusation est grave, plus elle doit être explicitée avec précaution et nuance et justice. Et vous ne pouvez pas identifier un ensemble humain au crime. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire. L'Europe, c'est le crime.
Je dis pas l'Europe, c'est le crime. Je dis que le crime va colorier, va expliquer la paralysie de l'action dans lequel l'Europe va se retrouver. Je ne dis pas que l'Europe, c'est le crime. Je ne dis pas que la France a été entièrement fasciste. Je ne dis pas que la France a été entièrement vaincue, bien que ça, ce soit peut-être quelque chose qu'on peut dire avec plus de facilité. Mais ce que je veux dire, c'est que pour comprendre la nasse dans laquelle se trouve l'Europe, et je pense que vous en avez, c'est vous qui mettez le doigt sur sur d'où vient, quand vous dites... Nous ne pouvons pas nous nommer nous-mêmes. Pourquoi nous avons tant de scrupules, alors que nous pouvons nommer éventuellement des autres, mais nous ne pouvons pas nous nommer nous-mêmes. D'où vient cette impossibilité? C'est là que le sociologue a quelques lumières à apporter. C'est-à-dire, c'est une impossibilité qui est, à mon avis, liée au fait que, alors, naturellement, il n'y a pas que le crime de génocide, il y a aussi le processus de décolonisation, le retour sur le processus de décolonisation. Tout ça est venu se cumuler, mais qui, naturellement, à partir de laquelle on ne voit pas comment va se déterminer quelque chose qui puisse être une politique. Et ça c'est vous qui le, en quelque sorte, en avez fait la démonstration la plus éclatante.
Je crois que sur cet aveuglement et sur cette impuissance, il faut se séparer et aller déjeuner. Nous irons mieux après.